France Musique. Il est 10h52, c'est donc la chronique de Christophe Dillis. Bonjour Christophe.
Bonjour Gabrielle.
Aujourd'hui dans Tendez l'oreille, vous célébrez l'Angleterre avec Hector Berlioz et vous célébrez Berlioz avec l'Angleterre.
Oui, c'est un peu les deux. Alors que le compositeur français du 19e siècle incarne un peu dans notre esprit la France musicale post-révolutionnaire, les débuts de la France romantique, son destin est en fait inextricablement lié à la culture anglaise. Alors, vous commencez à me connaître, Gabriel, je suis un peu plus intéressé par les partitions elles-mêmes que par les personnes qui les composent ou qui les jouent. Mais il y a un compositeur en particulier que je ne peux pas écouter sans avoir besoin d'en savoir plus sur sa vie. C'est Hector Berlioz. Je ne vais pas refaire ici toute sa vie. Il a eu une vie courte entre 1803 et 1869. C'est le compositeur de la Symphonie Fantastique, des Troyens, des Nuits d'été, de Harold en Italie. C'est quelqu'un qui a la bougeotte musicalement. C'est un inventeur musical qui ne veut jamais se résoudre à quoi que ce soit devant les exigences de la vie musicale parisienne. Et c'est surtout un compositeur qui refuse la musique pure, la musique formelle, la musique qui n'exprime pas une idée extra-musicale. Toutes ses compositions veulent dépasser la symphonie gratuite. Il lui faut des idées littéraires. Et il va chercher ses idées partout, y compris à l'étranger et surtout en Angleterre.
Alors je commence effectivement à vous connaître, Christophe, mais j'ai une question quand même. Pourquoi l'Angleterre chez Berlioz ?
Parce que c'est le mariage parfait. Londres, au 19e siècle, cherche des interprètes. Et Berlioz lui-même cherche une scène musicale qui puisse accueillir sa personnalité musicale plus grande que nature.
Il n'y a plus de France, plus d'Allemagne pour moi. La Russie est trop loin, je ne puis y retourner. L'Angleterre, depuis que je l'habite, a exercé à mon égard une noble et cordiale hospitalité.
Alors ça, c'est Berlioz qui écrit ça depuis Londres en 1848. Il soupire en suivant de loin les aventures de la monarchie, de la Restauration et l'imposition de la République. Il y a un événement qui va donner une forme définitive à l'Europe romantique, les traductions de Shakespeare. Elles ont donné aux Français l'accès à cette littérature étrange, psychologique, pompeuse, pleine de nuances et de personnages intéressants. Et c'est pour ça qu'avec Berlioz, on a du mal à séparer l'œuvre de l'auteur, parce que Berlioz vit sa vie avec ses exagérations toutes shakespeariennes.
Un théâtre anglais vint donner à Paris des représentations des drames de Shakespeare, alors complètement inconnus au public français. J'assistais à la première représentation d'Hamlet à l'Odéon. Shakespeare, en tombant ainsi sur moi à l'improviste, me foudroya. Son éclair, en m'ouvrant le ciel de l'art avec un fracas sublime, m'en illumina les plus lointaines profondeurs. Je reconnus la vraie grandeur, la vraie beauté, la vraie vérité dramatique. Mais la secousse avait été trop forte et je fus longtemps à m'en remettre. À un chagrin intense, profond, insurmontable, vint se joindre un état nerveux, pour ainsi dire, maladif.
Voilà, il y a chez Berlioz ce côté presque adolescent, ce côté pompeux dans la façon de vivre de plein fouet les expériences esthétiques. Et quand ce n'est pas Shakespeare, c'est Walter Scott. 1814, c'est Waverley, le premier roman de Walter Scott, traduit en 1818 et mis en musique par Berlioz en 1828. Alors Scott, pour faire court, met en scène un jeune anglais indécis qui découvre qu'il n'est ni fait pour la politique, ni pour les armes, mais plutôt pour une vie paisible au sein de son foyer. En tête de la partition, Berlioz met une citation du bouquin. Dreams of love and ladies' charms give place to honor and to arms. Rêves amoureux et féminins charmes s'effacent devant l'honneur et les armes. Et la structure de la pièce de Berlioz reprend ces deux vers. Il y a d'abord un premier mouvement très lent, celui qu'on entend en ce moment. Et puis un mouvement fracassant, donc give place to honor and to arms. Et il y a un compositeur qui a bien compris l'enjeu de cette pièce et de tous les poèmes symphoniques du 19e siècle, c'est Robert Schumann. Il était critique musical et il a lu Waverley, celui de Walter Scott mais aussi celui de Berlioz, et il a dit:
Berlioz a mis Waverley de Walter Scott en musique et les gens vont demander: ça se réfère à quel chapitre du livre? Quelle scène? Pourquoi? Quel est le but? Les critiques veulent toujours savoir ce que les compositeurs eux-mêmes ne savent pas. Bonté divine! Quand viendra le moment où on ne devra plus expliquer nos divines compositions?
Et ça me rappelle une phrase plus récente prononcée par Bernstein.
It's about notes.
La musique, c'est les notes. C'est des mi bémols et des fa dièses. Vous savez, les gens auront beau raconter des histoires sur la musique, oubliez-les. La musique n'est pas à propos de quoi que ce soit, la musique n'est jamais à propos de quelque chose. La musique, c'est les notes.
Thank you.
voilà, une des nombreuses pages anglaises de Berlioz.
Une des nombreuses notes aussi,
oui,
de la partition. Merci beaucoup Christophe Dillis.
Bonne semaine.
À réécouter sur francemusique.fr.